Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 20 sur 24. L'action vive et libre du jeune homme, et surtout l'agitation de son cœur, bouillant dans les pulsations précipitées par les hauts bras d'Émilie, la jetèrent dans une exaltation d'autant plus pénétrante qu'elle ne fut excitée que par les accidents les plus simples et les plus innocents. La réserve dans laquelle vivent les jeunes filles du grand monde donne une force incroyable aux explosions de leurs sentiments, et c'est un des plus grands dangers qui puisse les atteindre quand elles rencontrent un amant passionné. Jamais les yeux d'Émilie et de Maximilien n'avaient dit tant de ces choses qu'on n'ose pas dire. En proie à cette ivresse, ils oublièrent aisément les petites stipulations de l'orgueil et les froides considérations de la défiance. Ils ne purent même s'exprimer d'abord que par un serrement de main qui servit d'interprète à leurs joyeuses pensées. « Monsieur, j'ai une question à vous faire, » dit en tremblant et d'une voix émue Mademoiselle de Fontaine, après un long silence et après avoir fait quelques pas avec une certaine lenteur. « Mais songez de grâce qu'elle m'est en quelque sorte commandée par la situation assez étrange où je me trouve vis-à-vis de ma famille. » Une pause effrayante pour Émilie succéda à ces phrases qu'elle avait presque bégayées. Pendant le moment que dura le silence, cette jeune fille si fière n'osa soutenir le regard éclatant de celui qu'elle aimait, car elle avait un secret sentiment de la bassesse des mots suivants qu'elle ajouta « Êtes-vous noble ?» Quand ces dernières paroles furent prononcées, elle aurait voulu être au fond d'un lac. « Mademoiselle, » reprit gravement Longueville, dont la figure altérée contracta une sorte de dignité sévère. Je vous promets de répondre sans détour à cette demande quand vous aurez répondu avec sincérité à celle que je vais vous faire. » Il quitta le bras de la jeune fille qui tout à coup se crut seule dans la vie et lui dit « Dans quelle situation me questionnez-vous sur ma naissance ?» Elle demeura immobile, froide et muette. « Mademoiselle, » reprit Maximilien, « n'allons pas plus loin si nous ne nous comprenons pas. Je vous aime, » ajouta-t-il d'un son de voix profond et attendri. « Eh bien !» reprit-il d'un air joyeux après avoir entendu l'exclamation de bonheur que ne put retenir la jeune fille. « Pourquoi me demander si je suis noble ? Parlerait-il ainsi s'il ne l'était pas ?» s'écria une voix intérieure qu'Émilie crut sortie du fond de son cœur. Elle releva gracieusement la tête, sembla puiser une nouvelle vie dans le regard du jeune homme et lui tendit le bras comme pour faire une nouvelle alliance. « Vous avez cru que je tenais beaucoup à des dignités ?» demanda-t-elle avec finesse malicieuse. « Je n'ai pas de titre à offrir à ma femme. » répondit-il d'un air moitié gai, moitié sérieux. « Mais si je la prends, dans un haut rang et parmi celles que la fortune paternelle habitue au luxe et au plaisir de l'opulence, je sais à quoi ce choix m'oblige. L'amour donne tout, » agita-t-il avec gaieté. « Mais aux amants seulement. Quant aux époux, il leur faut un peu plus que le dôme du ciel et le tapis des prairies. « Il est riche, » pensa-t-elle. « Quant au titre, peut-être veut-il m'éprouver. On lui aura dit que j'étais entichée de noblesse et que je ne voulais épouser qu'un pair de France. Mes bégueules de sœurs m'auront joué ce tour-là. « Je vous assure, monsieur, » dit-elle à haute voix, « que j'ai eu des idées bien exagérées sur la vie et le monde. Mais aujourd'hui, » reprit-elle avec intention et le regardant d'une manière à le rendre fou, « je sais où sont pour une femme les véritables richesses. J'ai besoin de croire que vous parlez à cœur ouvert. » répondit-il avec une gravité douce. « Mais cet hiver, ma chère Émilie, dans moins de 2 mois peut-être, je serai fière de ce que je pourrai vous offrir, si vous tenez aux jouissances de la fortune. Ce sera là le seul secret que je garderai là, » dit-il en montrant son cœur. « Car de sa réussite dépend mon bonheur, je n'ose dire le nôtre. Oh, dites, dites !» Ce fut au milieu des plus doux propos qu'ils revinrent à pas lents rejoindre la compagnie au salon. Jamais Mademoiselle Fontaine ne trouva son prétendu plus aimable ni plus spirituel. Ses formes sveltes, ses manières engageantes lui semblèrent plus charmantes encore depuis une conversation qui venait en quelque sorte de lui confirmer la possession d'un cœur digne d'être envié par toutes les femmes. Ils chantèrent un duo italien avec tant d'expression que l'assemblée les applaudit avec enthousiasme. Leur adieu prit un accent de convention sous lequel ils cachèrent leur bonheur. Enfin, cette journée devint pour la jeune fille comme une chaîne qui la lia plus étroitement encore à la destinée de l'inconnu. La force et la dignité qu'ils venaient de déployer dans la scène où ils s'étaient révélé leurs sentiments avaient peut-être imposé à Mademoiselle de Fontaine ce respect sans lequel il n'existe pas de véritable amour. Lorsqu'elle resta seule avec son père dans le salon, le vénérable Vendéen s'avança vers elle, lui prit affectueusement les mains et lui demanda si elle avait acquis quelques lumières sur la fortune et sur la famille de Monsieur Longueville. « Oui, mon cher père, répondit-elle, je suis plus heureuse que je ne pouvais le désirer. Enfin, Monsieur de Longueville est le seul homme que je veuille épouser. »
« C'est bien, Émilie, reprit le comte. Je sais ce qu'il me reste à faire.
Connaîtriez-vous quelque obstacle ? Demanda-t-elle avec une véritable anxiété.
« Ma chère enfant, ce jeune homme est absolument inconnu. » Mais, à moins que ce ne soit un malhonnête homme, du moment où tu l'aimes, il m'est aussi cher qu'un fils.
Un malhonnête homme ? Reprit Émilie. Je suis bien tranquille. Mon oncle qui nous l'a présenté peut vous répondre de lui. Dites, cher oncle, a-t-il été flibustier, forban, corsaire ?
Je savais bien que j'allais me trouver là,
s'écria le vieux marin en se réveillant.